Laudetur Jesus Christus.
Il y a 40 ans, Jean-Paul II était victime d'un attentat à Place Saint-Pierre juste avant l'audience générale. À l'occasion de cet anniversaire, nous reviendrons sur cette journée historique juste après les titres. Poursuite des violences entre Israéliens et Palestiniens avec tirs de roquettes du Hamas sur Israël qui ont provoqué la fermeture de l'aéroport de Tel Aviv et bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais ce sont les affrontements entre citoyens israéliens, juifs et arabes qui inquiètent le plus les autorités israéliennes. Guerre civile au Yémen, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la cessation immédiate des hostilités. Mais la solution pourrait bien venir de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, les principaux alliés des belligérants.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, c'était donc il y a 40 ans, le 13 mai 1981. Sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II s'affaissait dans sa jeep blanche, touché de plusieurs balles. Le souverain pontife polonais, grièvement blessé, rapidement transporté à l'hôpital italien romain de Gemelli. Dans la foule des pèlerins, la stupeur laisse place à des heures d'angoisse et surtout à une immense vague de prières. Retour sur cet événement avec Adélaïde Patrignani.
Per la prima volta si parla di terrorismo anche in Vaticano.
Pour la première fois, on peut parler de terrorisme au Vatican. On parle de terrorisme depuis là où ont été toujours diffusés des messages d'amour, des messages de concorde et de paix. Cette voix, c'est celle de Benedetto Nardacci. Le journaliste suit en direct l'audience générale pour le programme italien de Radio Vatican. Et ce 13 mai 1981, à 17h17, il assiste à l'imprévisible. Une tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, alors âgé de 60 ans. Son agresseur, Mehmet Ali Aksa, est un jeune militant de l'extrême droite turque. Dans la foule des 20 000 pèlerins venus place Saint-Pierre, puis dans les rues du Borgo, une clameur se répand. Ils ont tué le pape est mort. Et pourtant, le successeur de Pierre vit encore. Sur le trajet vers l'hôpital Gemelli, il murmure dans sa langue natale le nom de Marie. On fête ce jour-là Notre-Dame de Fatima. Jean-Paul II est opéré pendant plus de 4 heures. À Rome et dans le monde entier, des millions de fidèles prient pour lui. Leur cri fervent est écouté. 4 jours plus tard, le Saint-Père s'adresse à eux depuis son lit d'hôpital. Une prière du Regina Celi, d'où jaillit la force du pardon et une confiance filiale en la Mère de Dieu.
Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. A te, Maria.
Je prie pour le frère qui m'a tiré dessus et auquel j'ai sincèrement pardonné. À toi, Marie, je répète, totus tuus, ego sum, je suis tout à toi. Un an plus tard, Jean-Paul II se rend à Fatima. Il en est convaincu, la main de Notre-Dame a dévié la trajectoire de la balle. C'est à elle qu'il doit sa survie.
Adélaïde Patrignani, et sur notre site internet, vous pouvez retrouver des photos et des vidéos d'archives sur cet événement. Rendez-vous donc sur vaticannews.va. Pas de pause dans les affrontements entre Israéliens et Palestiniens, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, ainsi que dans certaines villes d'Israël, malgré les appels au calme et à la désescalade lancés par la communauté internationale. Le point sur la situation avec, à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
Eh bien, l'armée israélienne continue depuis ce matin ses frappes à Gaza. Une dizaine de raids en quelques heures qui ont visé des positions du Hamas et notamment des rampes de lancement de missiles. En 3 jours, les bombardements ont déjà fait 83 morts, à la fois des gradés du Hamas et des civils. Les tirs de roquettes vers Israël se poursuivent également, plus de 140 depuis hier soir. Cette nuit, les sirènes ont de nouveau retenti à Tel Aviv. On compte 7 morts côté israélien. Par mesure de sécurité, l'aéroport Ben Gurion, la principale porte d'entrée du pays, a été fermée et les vols sont détournés vers celui d'Elat au sud. Mais ce qui inquiète le plus les autorités israéliennes, ce sont les émeutes entre juifs et arabes qui gagnent de plus en plus de villes mixtes. Après Jérusalem, elles ont éclaté depuis 48 heures à Haïfa, Saint-Jean-d'Acre, Tibériade, mais surtout à Lod, dans le centre du pays. C'est là que les affrontements sont les plus violents. Un Israélien juif y a encore été poignardé ce matin. Le maire de la ville parle d'un climat de guerre civile et certains réclament l'envoi de l'armée sur place. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Et le ministre israélien de la Défense a ordonné justement des renforts massifs pour les forces de sécurité dans les villes mixtes du pays. Cessez-le-feu de 3 jours en Afghanistan entre les talibans et l'armée afghane. Cette trêve, la quatrième depuis 20 ans, a été décidée à l'occasion de l'Eid al-Fitr, cette fête musulmane qui marque la fin du mois de Ramadan. Cette suspension des combats a cependant été précédée par d'intenses manœuvres des talibans qui se sont emparés mardi d'un district jusqu'alors contrôlé par le gouvernement à la périphérie de Kaboul, la capitale. Au Yémen, pas de trêve en vue. Les combats pour le contrôle de la ville de Marib se poursuivent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé hier à une cessation immédiate des hostilités alors que la situation sanitaire du pays ne cesse de se détériorer. Mais les espoirs d'une pause dans cette guerre civile reposent, Delphine Allaire, dans les pourparlers secrets entre Riyad et Téhéran.
Oui, Xavier, des discussions confidentielles entre l'Arabie Saoudite et son grand rival iranien signent d'un revirement diplomatique après des années de tensions et de conflits par procuration au Yémen. Les tentatives de dialogue se sont multipliées ces derniers jours et devraient se prolonger tout le mois de mai entre ces deux puissances qui avaient coupé tout lien en 2016. Le royaume saoudien cherche en effet désormais le soutien de Téhéran pour se sortir de l'impasse de cette guerre au Yémen qui représente un coûteux engagement militaire pour soutenir le gouvernement de ce pays voisin, pauvre et divisé. Pour rappel, Riyad est pro-force gouvernementale, Téhéran pro-rebelle Houthi et donc anti-force gouvernementale. Selon plusieurs experts, cette récente inflexion vise à un échange. Riyad baisse le ton sur le nucléaire iranien dans l'espoir que Téhéran l'aide à trouver une issue. Hier soir, en attendant, le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré que seul un cessez-le-feu durable et une entente politique pouvaient mettre fin au conflit et à la crise humanitaire yéménite. L'émissaire des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, entend bien lui faire rencontrer les parties en conflit physiquement. Cela, ces tout prochains jours, a-t-il promis à cette occasion.
Delphine Allaire. Le gouvernement de Sierra Leone veut abolir la peine de mort. Il va soumettre au Parlement un projet de réforme de l'arsenal juridique. Un moratoire de fait existe dans le pays. La dernière exécution capitale remonte à 1998. Et la plupart des sentences sont généralement commués en peine de réclusion à perpétuité. Visite dans l'est de la République démocratique du Congo et de la chef de mission de l'ONU dans le pays. Elle veut clarifier les rôles de tous les acteurs sur le terrain alors que l'état de siège a été décrété il y a quelques jours par le président Tshisekedi. À Kinshasa, Pascal Moulegua.
L'armée dit avoir déjà enregistré des prouesses sur la ligne de front dans la province de l'Ituri. Jusqu'ici, ce sont quelques localités occupées par des miliciens de Codeco qui ont été récupérées. Mais pour la société civile du territoire des Djougou, épicentre des violences en Ituri, par exemple, ce sont des effets d'annonce car des groupes armés continuent de s'apprendre aux civils. Au Nord Kivu, les tensions persistent en dépit de l'état de siège, mais les présumés combattants de l'ADF n'ont jusqu'ici signé aucune exaction des masses depuis une semaine. L'armée ougandaise se veut aux côtés des forces congolaises dans cette lutte, mais son appui est trop limité. Officiellement, aucun déploiement des troupes ougandaises au Nord Kivu n'est prévu. Seul un centre de coordination conjointe des opérations entre les deux armées a été installé dimanche à Beni, rien que pour coordonner les renseignements sur les éventuels mouvements des rebelles ADF. Les rôles de la mission des Nations Unies, MONUSCO, dans cet état de siège n'est pas encore clarifié. C'est pour cela que l'émissaire de l'ONU dans les pays, Bintou Keïta, a rencontré mercredi le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, sans plus de détails sur l'entretien. Pascal Moulegua, Kinshasa, Radio Vatican.
Autre actualité concernant le Congo avec la visite hier à Lubumbashi au Katanga du président Félix Tshisekedi, le Katanga qui est le fief de son prédécesseur Joseph Kabila. Il a mis en garde les habitants de cette région minière contre les discours démagogiques et manipulateurs selon ses termes. Il a réaffirmé que le Haut Katanga faisait partie intégrante du Congo, accusant aussi les investisseurs étrangers de s'accaparer les richesses du pays au détriment des Congolais. Le Venezuela réclame à l'Espagne l'extradition de l'opposant en exil Leopoldo López. À décision de la Cour suprême du pays envers cet ancien chef de l'opposition condamné à 14 ans de prison dans le cadre des manifestations contre le gouvernement de Nicolas Maduro, c'était en 2014. Leopoldo López s'est dit victime d'une persécution de la part du régime. Il affirme être cependant à la disposition de la justice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h heure de Rome en compagnie d'Hélène Destombes. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.